Chapitre 20. Le jour baissait, mais la chambre restait claire car le soleil se couchait de ce côté. Une lumière pâlie caressait les vitres dont les rideaux avaient été relevés pendant que Bruno recevait l'extrême-onction. Sa mère se tenait penchée vers lui, elle offrait au contact de l'huile sainte ses membres formés de sa chair et de son sang que la mort allait saisir tout à l'heure et que la résurrection attendait. En face de Bruno, Florian était debout. Il avait voulu qu'elle fût là. Tandis que le prêtre lui faisait les onctions, le jeune mourant la regardait. Ses yeux disaient « c'est pour toi que j'ai péché ». Mais rien ne bougeait sur la blanche figure et les longs cils roux ne palpitaient même pas sur le regard qu'il voilait à demi. Quand ce fut fini, Bruno l'appela du geste. Elle s'avança et lui prit la main. Il eut un mouvement pour la retirer, mais se contint, et il dit, de cette voix sifflante qui faisait mal à entendre, « Je te pardonne ». Elle répondit brièvement, « Tu n'as rien à me pardonner, je t'ai donné le bonheur. » « Le bonheur ? Oh non, ce n'est pas cela, pas cela. L'ombre, oui, l'ombre du bonheur. » Il s'interrompit. Un silence passa dans la pièce où Madame Ferrière, son mari, Louis et Marthe arrivaient tout à l'heure. Le curé de Sainte-Cécile et Henri de Marge se tenaient debout, regardant celui qui allait les quitter pour entrer dans l'éternité. Bruno murmura. « Penche-toi, je veux te dire quelque chose. » Florian approcha son oreille de la bouche qui s'entr'ouvrait péniblement. Bruno prononça quelques mots que nul n'entendit. Ses yeux s'éclairèrent d'un dernier reflet de vie en regardant Florian, en la suppliant. Elle détourna les siens, se redressa et dit d'un ton tranquille « Ne me demande pas cela, ta religion ne sera jamais la mienne. Je l'ai toujours sentie entre toi et moi, glissant une amertume au milieu de tes joies. » Même pour l'amour de toi, je n'irai pas à elle. » Des yeux de Bruno, deux larmes glissèrent, très lourdes, sur les joues blêmies. Il dit tout bas, « Pauvre Florie !» Un mieux léger se manifesta pendant la nuit et le jour suivant. Personne ne s'y trompa cependant parmi ceux qui entouraient Bruno. Madame Ferrière ne le quittait pas, jouissant douloureusement de ses dernières heures, pendant lesquelles son fils était à elle, comme autrefois. Florian s'écartait de lui et il ne la réclamait pas, mais il voulait constamment sa mère près de lui. « Que c'est bon, chère maman, de vous avoir là. Vous savez me réconforter, me dire ce qu'il faut à des heures comme celle-ci, des heures où l'on voit tout sous un jour si différent. » Il voulait qu'elle lui parlât de Sarget, qu'elle lui rappelât les souvenirs de sa jeunesse. Il lui demanda de prier tout haut et disait avec un sourire heureux « Oh, que c'est bon d'avoir la paix, d'être pardonné !» Vers le soir, un étouffement survint. Ce n'était pas encore la fin cependant. Mais Bruno ne bougea plus et ses longues paupières mates demeurèrent closes. Il conservait toutefois une demi-conscience sans souffrir. Des visions d'autrefois s'estompaient dans une brume. Il revoyait sa chambre, la vieille maison, la table où il travaillait, où il avait écrit « L'ombre qui vient », son ouvrage préféré. La fenêtre, très large, laissait entrer le soleil du soir. Quelle senteur délicieuse ! C'étaient les glycines et les roses de la façade qui envoyaient à Bruno leur bonsoir parfumé. Et le matin, il partait dans la fraîcheur de l'aube pour aller servir la messe de Jacques. L'église était toute sombre. Bruno l'aimait mieux aux heures du soir, quand ses verrières flamboyaient et que ses nefs restaient vides. Mais elle lui était chère toujours, n'importe comment, sa vieille église où il avait tant prié. De grands vides se faisaient dans sa pensée, puis il se trouvait assis au pied de sa mère, dans le petit salon garni de vieux meubles d'acajou. Une main douce lui caressait les cheveux, tandis qu'il racontait les impressions de la journée, demandait des conseils, disait ses joies et ses découragements. Oh, le cher regard tendre de ses deux yeux clairs, où se reflétait tant de vie noble et pure, et qui insufflait un peu de cette vie en lui. Mais il ne voyait plus maintenant qu'à travers un voile épais le visage aimé. Qu'était-ce donc ? Il avait peur, il étouffait. Des voix disaient « Ave Maria, gratia plena. Un calme soudain se fit en lui. Le visage d'ivoire jauni de la petite Vierge de bois se montra, resplendissant de la clarté d'innombrables lumières. Puis l'ombre se fit, et la nuit. Le dernier lien se brisa, et Bruno vit la lumière du monde. Dans son testament, il demandait que ses restes mortels fussent ensevelis à Chargés dans le caveau de famille. Floriane n'opposa aucune résistance à cette volonté. Elle se montra d'ailleurs très correcte, sans quitter un instant son air de calme froideur. Madame Ferrière ne l'avait pas vue pleurer près du corps de son mari. Mais elle remarquait que les cernes de ses yeux s'accentuaient, que la pourpre de ses lèvres n'avait plus son palpitant éclat de fleurs. Quand le cercueil fut parti pour la gare, après une courte cérémonie religieuse, Madame Ferrière prit congé de la jeune femme. Elles se trouvaient toutes deux dans le cabinet de Bruno. Le crépuscule enveloppait d'ombre les meubles aux fines ciselures, les statues blanches, le vert délicat des tentures et les deux femmes en deuil, debout près de la table de travail. Des iris blancs, les fleurs préférées du jeune mort, dressaient leurs longues tiges dans un vase de cristal. Les livres, les papiers étaient rangés avec le soin accoutumé, le stylo se trouvait à sa place habituelle, comme si l'écrivain venait de le poser là pour une courte absence. Madame Ferrière dit à Floriane « Ne voulez-vous pas garder ce souvenir ?» Elle lui tendit le crucifix qui avait reçu le dernier baiser de Bruno. Il lui était toujours douloureux de s'en séparer, mais elle faisait ce sacrifice dans l'espoir que ce souvenir sacré toucherait un jour l'âme fermée de la jeune femme. Floriane eut un geste de refus en répondant froidement « Non, merci, son Dieu n'a jamais été mon Dieu et il me l'a pris au dernier jour de sa vie. » Pauvre enfant, qui ne voyait que la terre et ses joies fugitives. Le regard triste de Madame Ferrière enveloppa la jeune femme, ses doigts serrèrent plus fort le crucifix sur lequel s'étaient purifiées les lèvres de Bruno. « Adieu, Floriane. Adieu, Madame. » Elle sortit, toute mince dans ses vêtements de deuil, sous le long voile qui cachait ses cheveux grisonnants. Dans la pièce où l'obscurité venait, Floriane resta seule. Elle se pencha, prit un des iris et l'approcha de ses lèvres. Elle ne pleurait pas. À peine ses paupières battaient-elles un peu. Mais elle songeait « Je ne pourrais pas vivre sans lui !» À travers Paris, Madame Ferrière s'en allait vers cette gare, d'où elle partirait pour entrer à Chargés avec le corps sans vie de celui qui avait été, en ces dernières années, la torture de son cœur maternel. Mais une joie surnaturelle se mêlait à sa douleur, car elle emportait, reconquise sur l'étrangère, l'âme purifiée de son fils.